Alors, nous avons vécu une journée passionnante. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise, hein, je m'attendais à cela en venant ce matin. Et je vous invite à ce stade donc à prendre un peu de recul. Nous avons examiné tout au long de la journée différents arguments que l'on avance en faveur de la foi chrétienne. Alors, rassurez-vous, je ne veux pas rajouter d'autres arguments encore. Je veux simplement poser une question de méthode, donc une question fondamentale. Nous avons déjà d'ailleurs touché un peu à cette question au cours de la table ronde, et ce n'est pas étonnant. Donc je voudrais poser en fait la question de la valeur de ces preuves. Donc quelle valeur fondamentale accorder à de telles preuves? Et cette question peut se décliner selon deux axes, la validité objective des preuves et leur utilité dans les dialogues avec des non-croyants. Et je commencerai par traiter de la deuxième question. Les preuves que nous avons étudiées sont-elles efficaces dans notre effort de témoigner de notre foi auprès de non-croyants qui nous entourent? Alors, évidemment, cela dépend beaucoup des personnes auxquelles on s'adresse. Donc, notre journée s'est intéressée spécifiquement à de nouveaux arguments qui font intervenir des découvertes récentes en sciences naturelles et humaines. Et ces arguments n'auront donc que peu d'impact auprès de personnes qui ignorent ou méprisent, justement, la science. En revanche, auprès de scientifiques ou de simples amateurs de sciences, les arguments étudiés peuvent se révéler pertinents, alors quand même sous une condition qui est non négligeable, c'est que notre interlocuteur accepte d'investir l'effort intellectuel pour suivre le raisonnement. Parce que donc quelques-uns des arguments examinés étaient effectivement des arguments complexes, mais bien entendu, ça ce n'est pas propre à des arguments en faveur de la foi chrétienne, beaucoup de choses qui valent la peine demandent un effort intellectuel certain. Ce n'est pas pour raison qu'on fréquente l'école pendant quelques années et que d'autres prolongent même à l'université. Donc le premier message que je voudrais vous laisser à la fin de cette journée, c'est de ne pas nous laisser décourager dans notre démarche de témoignage par une idée assez répandue et qu'on nous répète assez souvent, me semble-t-il, donc idée selon laquelle personne ne se soit jamais converti sur la base d'arguments rationnels. Je crois que c'est faux. D'ailleurs, Alexis là nous a parlé, d'ailleurs, d'une expérience donc qu'il a fait qui contredit cette idée répandue. Et par moments, je me demande même si c'est pas un des mensonges du diable que justement qu'il a intérêt à faire circuler pour empêcher les chrétiens d'avoir recours à la raison dans leur témoignage. Alors, il est vrai que à un moment ou à un autre, il faut accepter la folie de la croix, comme dit l'apôtre Paul, pour devenir chrétien. Mais il n'empêche que des arguments rationnels peuvent jouer un rôle dans le cheminement vers la foi, car la folie de la croix, et là encore je cite Paul, est bien une folie apparente. C'est justement la croix est une folie quand on mesure le message chrétien par les critères humains, mais des critères humains, justement, erronés. Mais ce même message est puissance et sagesse de Dieu, comme insiste l'apôtre Paul. Et la raison est donc pour Dieu, comme dit le titre d'un ouvrage de Timothy Keller. Et contrairement aux idées reçues, l'efficacité d'arguments rationnels se vérifie dans les faits. Et je voudrais vous donner donc deux exemples. Le premier exemple est Anthony Flew. Anthony Flew, d'ailleurs, qui s'appelle lui-même l'athée, ou disons, oui, qui a été appelé l'athée le plus connu du monde. Effectivement, je connaissais Anthony Flew d'ouvrages philosophiques, un peu comme l'athée disons, peut-être aujourd'hui on donnerait Dawkins, donc Flus est un peu plus ancien, hein, donc il a aujourd'hui bien dépassé les 80 ans. Mais donc, Anthony Flew, qui était régulièrement cité dans des ouvrages de philosophie de la religion comme représentant de l'athéisme, finalement a abandonné son athéisme sous l'impact de l'argument du fine-tuning. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment parvenu à une foi, chrétienne ou, disons, au sens plénier du terme. Hein, donc, le Dieu auquel il est parvenu, c'est plutôt un Dieu déiste, hein, dans l'action se restreint à mettre en place l'édifice du monde. Donc, ce n'est pas le Dieu biblique, hein, qui reste actif au sein de sa création. Néanmoins, il a en tout cas abandonné son athéisme. Mais alors, un autre exemple, là, très connu et très célèbre, c'est C.S. Lewis. Et c'est l'apologète chrétien le plus influent, je pense qu'on peut dire, du XXe siècle. Et il considéra que la persuasion rationnelle avait joué un rôle pivot dans son cheminement vers la foi chrétienne. Et donc, il raconte ce cheminement dans son autobiographie, Surpris par la joie. Et c'est assez impressionnant, en fait, de voir comment il trace ce cheminement qui partait d'un idéalisme athée. C'est vrai que c'est pas le point de départ, je pense, le plus courant, en tout cas parmi les scientifiques. Justement, il n'était pas scientifique. Hein, donc, il est parti d'un idéalisme athée pour venir au théisme et ensuite au christianisme. Et donc, plusieurs éléments, hein, y sont intervenus. D'abord, la reconnaissance, hein, d'ailleurs, la reconnaissance tout à fait contre son gré, que les auteurs religieux, et plus spécifiquement chrétiens, laissaient davantage, alors là, je le cite, « entrevoir la rudesse et la densité de la vie ». Donc, il dit à un certain moment dans son cheminement, il était arrivé à la conclusion que les chrétiens avaient tort, mais que tous les autres étaient ennuyeux. Voilà. Alors ensuite, il y a eu la découverte intellectuelle d'incohérence dans sa philosophie idéaliste, la difficulté d'enseigner cette philosophie clairement à ses étudiants, la résonance des récits évangéliques avec des mythes païens et des arguments pour la fiabilité historique des évangiles, de sorte que les évangiles, de façon assez surprenante, semblaient constituer la seule foi dans l'histoire, hein, où les aspirations exprimées dans les mythes païens s'étaient réalisées. Encore l'impossibilité de trouver un soutien réel pour un comportement moral dans la pensée de l'absolu. Hein. D'ailleurs, il met en garde tout athée de ne pas essayer de vivre moralement en s'appuyant sur son athéisme, parce qu'il finirait peut-être bien par prier pour implorer le secours de Dieu. Et donc, le récit autobiographique de Lewis montre que des arguments pour le théisme en général et le christianisme en parallèle constituèrent des coups décisifs de Dieu sur l'échiquier de sa vie, jusqu'à l'échec immat, c'est comme ça que Lewis s'exprime, pour qu'il abandonne son désir le plus chéri, et je le cite encore une fois, qu'on ne se mêle pas de mes affaires, que mon âme fût bien à moi. Et il y a ce passage célèbre que vous connaissez peut-être, où donc Lewis s'exprime en fait, sa conversion à ce stade seulement au théisme, hein, donc la première fois qu'il a prié. Essayez d'imaginer la chambre où j'étais seul, soir après soir, sentant dès que mes pensées quittaient mon travail, ne fût-ce qu'une seconde, la venue continue, inexorable, de celui que je désirais si profondément ne pas rencontrer. Ce que j'avais tellement redouté m'arrivait enfin. En cette année 1929, je cédais, j'admis que Dieu était Dieu. Je me mis à genoux et je priais, et je fus sans doute ce soir-là le converti le plus déprimé et le plus réticent de toute l'Angleterre. Hein, donc là, C.S. Lewis, un cheminement où, disons, une angoisse existentielle ou, disons, une rencontre mystique, parce que je pense qu'il ne faut pas lire cette rencontre, celui qui venait, donc ce n'est pas une expérience mystique là qui est décrite, hein, mais c'est vraiment face à disons, à une honnêteté intellectuelle et un effort aussi de mettre en pratique effectivement sa philosophie qui l'amène finalement à se soumettre à Dieu. Donc voilà, donc ça c'est pour la deuxième question, l'efficacité des arguments. Oui, ces arguments peuvent être efficaces, ils peuvent jouer un rôle dans le cheminement vers la foi. Revenons maintenant au premier aspect de la question, la validité objective des arguments étudiés. On a déjà discuté un peu de cette question, probable, possible, certain. Ces arguments-là, que prouvent-ils au juste ? S'agit-il de preuves qui démontrent la vérité de la foi chrétienne, ou au moins de certaines de ses affirmations centrales comme l'existence du Dieu créateur ? Ou plus modestement, s'agit-il d'indices qui sont censés nous ouvrir vers la possibilité que notre monde visible ne soit pas la seule réalité qui existe ? Quel est le degré de certitude auquel ils nous permettent de parvenir ? Établissent-ils la vérité de la foi chrétienne avec une entière certitude ou seulement avec une certaine probabilité ? Et donc, différents courants du christianisme répondent différemment à ces questions. Alors, à une extrémité du spectre, on trouve le thomisme affirme que l'homme peut découvrir, par sa seule raison, sans aide surnaturelle, certaines vérités fondamentales du christianisme, comme l'existence et certains attributs de Dieu. C'est d'ailleurs dogme officiel dans le christianisme depuis le Concile de Vatican I, donc depuis 1870, qui stipule « Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude » par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. À l'autre extrême, on peut citer Søren Kierkegaard, donc philosophe danois, protestant et existentialiste, donc du 19e là aussi, qui considérait que l'enthousiasme de la véritable foi n'est jamais une défense, c'est toujours une attaque, une victoire. Et il écrit ceci, le premier inventeur dans la chrétienté, il y a une erreur là, dans la chrétienté, d'une défense du christianisme est de fait un autre Judas. Lui aussi trahi d'un baiser, mais c'est le baiser de la bêtise. Je déclare incrédule celui qui défend le christianisme. Et donc pour Kierkegaard, la foi ne peut prospérer qu'en s'élançant de ce qui est humainement absurde, sans justement exiger d'assurance rationnelle. Alors, donc, face à ces différentes approches, comment nous situer donc dans une perspective biblique, parce qu'il faut donc revenir à la Bible, qui était notre point de départ ce matin, et à laquelle il convient de revenir en fin de journée. En fait, quand on replace les différents arguments étudiés dans le contexte de ce que dit la Bible, de la révélation de Dieu dans la nature et dans la conscience humaine, on discerne que chaque preuve met en lumière un aspect spécifique de cette révélation. Chaque aspect de la réalité nous parle de Dieu, et les différents arguments se concentrent sur tel ou tel aspect de la révélation divine. Et à ce titre, on peut trouver des ancêtres de ces arguments dans la Bible. Alors je ne dis pas les arguments, disons, pleinement développés, parce que les arguments que nous avons étudiés aujourd'hui font appel à des connaissances scientifiques inaccessibles aux auteurs et premiers auditeurs et lecteurs de la Bible. Mais on trouve des ancêtres ou des embryons de ces arguments, et d'ailleurs pas seulement pour conforter les croyants dans leur foi, mais ils sont aussi utilisés face à un public incroyant ou un public qui doute. Et donc, je vous donne quelques exemples. Donc, nous avons parlé ce matin déjà du psaume 19, qui célèbre la révélation de Dieu dans le fonctionnement harmonieux de la sphère céleste. On peut citer le livre de Job, où le Seigneur lui-même donne à Job des leçons de météorologie et de zoologie pour convaincre Job qui doute de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Et le psaume 94, au fond, a un argument téléologique qui n'est pas si loin de l'argument de William Paley, Et donc ils disent aussi, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne regarderait-il pas? Donc vous avez bien l'idée qu'il y a donc une adaptation dans le monde du vivant, et donc des compétences, des capacités qui doivent renvoyer un créateur qui a au moins donc ses capacités et même à la perfection. Et même, donc ça c'est en pensant à l'intervention d'Émilie, j'ai trouvé un verset qui, me semble-t-il, suggère que la foi en Dieu est naturelle. Et là, peut-être je tire un peu, mais voilà, je vous le soumets, c'est le prophète Ésaïe qui interpelle le peuple à infidèle par le comportement des animaux. Donc Ésaïe 1, verset 3, nous lisons d'ailleurs, c'est à cause de ce verset que vous trouvez le bœuf et l'âne, donc toujours à la crèche, les animaux sont à la crèche, ils reconnaissent leur Seigneur, et les humains ne sont pas forcément tous là. Et donc Ésaïe 1 dit, le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent, Israël, lui, ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Et donc, les animaux ont une tendance naturelle, alors peut-être pas croire en Dieu, mais en tout cas de se porter vers le propriétaire, et donc la foi du peuple devrait prolonger cette tendance naturelle. Et alors, si après, donc, on dépasse la révélation générale pour aller dans le domaine de l'histoire du salut, les récits, donc les discours des apôtres dans le livre des Actes font régulièrement appel donc aux preuves historiques de l'œuvre de Jésus, de sa résurrection. Luc commence d'ailleurs le livre des Actes en soulignant les preuves par lesquelles Jésus se présenta vivant aux apôtres après sa résurrection. Et il n'est donc pas suffisant de voir dans les arguments apologétiques avancés de simples indices qui invitent à la foi. Au contraire, Romains 1 dit bien que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Et toujours dans le même chapitre, Paul souligne que la révélation générale, naturelle, est si claire qu'elle suffit pour établir la culpabilité de l'homme qui ne croit pas au Dieu créateur. Alors, évidemment, rien n'empêche que certains arguments apologétiques ne soient pas valides. Dans ce domaine, comme dans n'importe quel autre domaine, on peut proposer des arguments fallacieux. Mais les arguments apologétiques valides le sont objectivement et rigoureusement. Et que beaucoup n'acceptent pas leur conclusion ne provient pas de leur faiblesse argumentative, mais de ce que l'homme pécheur n'accepte pas de se soumettre à son Créateur. Et je me rappelle à cet égard un cours que j'ai suivi à l'université de Cambridge, où qui était consacré aux preuves théistes, où l'enseignant, donc en introduction, disait que les preuves théistes, donc qui prouvent l'existence de Dieu, ont très mauvaise presse aujourd'hui en philosophie, que lui-même, donc, était pas croyant, mais qu'en tant que philosophe honnête, il devait dire que c'était des arguments qui étaient aussi bons que tous les autres arguments, disons, qui circulent en philosophie, qu'on discute, et que les gens donc ne les acceptaient pas, ils ne les aimaient pas parce qu'ils n'aimaient pas la conclusion, mais que c'était pas inhérent, disons, à la faiblesse des arguments. Et j'ai trouvé ça assez assez remarquable, disons, en honnêteté de la part de cet enseignant. Et donc, je propose donc une évaluation qui entre les deux extrêmes que nous avons vus. Donc, c'est d'ailleurs la position de Calvin, qui considère que les arguments, ce qu'on peut tirer de la révélation de Dieu dans la nature établit en fait la culpabilité de l'homme. Donc, contre donc quelqu'un comme Kierkegaard, donc on maintient bien la validité objective des raisonnements, mais contre l'optimisme thomiste, on souligne que les effets du péché sur l'intelligence empêchent la droite réception de cette même révélation. Donc, la révélation de Dieu dans la nature suffit pour établir la culpabilité de l'homme, mais non pas pour l'amener au salut. Et donc, du coup, on peut se dire, d'accord, mais donc si le péché empêche de recevoir cette révélation, donc même si les arguments sont valides, est-ce qu'on ne revient pas quand même à leur inefficacité? Et là, on doit se rappeler que l'homme reste accessible à la vérité divine, même l'homme pécheur ne cesse pas d'être en image de Dieu, et en plus, il vit dans un monde créé par Dieu, et ce monde a une consistance propre. Tôt ou tard, les interprétations mensongères, donc non bibliques, se heurteront aux faits. Et les divers arguments pour la foi peuvent donc atteindre le non-croyant en fonction des parcelles de vérité qu'il incorpore, malgré ses rébellions, dans ses représentations des choses. Et la validité objective, d'ailleurs, des bons arguments permet en particulier la démarche argumentative elle-même. Ça, c'est un argument, d'ailleurs, qui est peut-être pas si loin, d'ailleurs, de l'argument de Plantinga, de dire que, finalement, aucun raisonnement même est possible si Dieu n'existe pas. Donc, Dieu est le présupposé nécessaire de tout raisonnement. Et donc, que l'argumentation, que les preuves donc de la foi chrétienne ne soient pas reçues sans l'action de l'Esprit-Saint, n'enlève rien à leur validité objective et à leur utilité dans le témoignage. Mais parce que ces arguments peuvent justement devenir l'instrument par lequel l'Esprit convainc l'incroyant. Et que le Seigneur permette, dans sa grâce, que nous sachions employer les arguments auxquels nous avons réfléchi aujourd'hui pour que quelques-uns parmi nos amis et collègues non chrétiens découvrent le salut en Jésus-Christ.